Chapitre 3. La chambre où agonisait Mathilde Duroy eut raconté à un observateur la vie accidentée et ballottée de la mourante, rien que par son ameublement composite, stratifié par couches successives, pour ainsi dire. Car Mathilde, tracassée de superstition, ne se séparait pas volontiers des objets compagnons de son passé, et, suivant les diverses fortunes de ces années, les acquisitions, les cadeaux, les souvenirs s'accumulaient sur un fond de décoration tristement banal, peluches frangées et fausses turqueries qu'elle aimait, qui représentaient son idéal de confort, et dont en vain Étiennette, tellement plus affinée, tellement d'autres races intellectuelles, avait essayé de la dégoûter. Sur la cheminée tendue de peluches bleues, à garniture de cuivre repoussé, un daguerréotype, enchâssé dans un cadre noir ovale, à vitres bombées, montrait l'image miroitante, jaunie, à demi effacée, d'une jolie première communiante, blanche et fraîche, souriante comme une fleur d'aubépine. Mathilde faisait, soir et matin, sa prière devant ce cadre, sa propre image de petite campagnarde innocente. Deux autres photographies, plus récentes, ornaient les angles. Celle de la mère de Mathilde, une paysanne à bonnet breton, celle du mari de Mathilde, car Mathilde avait été mariée à un contremaître parisien. Du temps de son mariage, il ne demeurait que ce portrait et la folle Suzanne que Mathilde avait eue du contremaître. Lui était mort jeune, et tout de suite, presque dans le cortège, où il y avait des patrons, de grands industriels à hôtels et à mails, la jolie veuve avait trouvé le consolateur. Une bibliothèque Jean Reboul, en bois de rose marqueté, dénonçait le style de la première installation. Peu à peu, des amitiés plus artistiques laissèrent comme reliques trois admirables fauteuils Louis XIV, en bois sculpté et doré, recouverts de gobelins pure soie, meubles qui se fabriquaient dans les manufactures royales à la destination spéciale de présents royaux. Quelques ébauches amusantes représentaient une jeune femme, le haut du buste nu, en corset ou en chemise. Mathilde Duroy avait été célèbre pour ses épaules et ses bras. Et plus d'une fois, au coin des pochades, comme sur la garde de tels romans nichés dans la bibliothèque Boulle, cette dédicace revenait, souscrite de signatures célèbres. À la bonne Mathilde, son amie. La bonne Mathilde. Bonne, ça avait été son surnom toute sa vie. Une bonté vide et vaine, un peu niaise, passant de la prodigalité à l'avarice, toujours préoccupée d'amasser une fortune et se décavant subitement de toutes ses économies pour le plus sot caprice, parfois même par toquade de charité. Que serait-elle devenue si, durant 20 années de sa vie, elle n'avait pas gardé l'amitié généreuse et accommodante d'Asquin, à qui suffisait, lorsqu'il venait à Paris, le plaisir de retrouver une sorte de famille entre une maîtresse encore jolie et la jolie Étiennette, bien élevée au couvent de Picpus, qu'il appelait papa. La mort subite du député monarchiste de l'Aude, sans testament, réveilla rudement la pauvre femme de joie, endormie dans cette confiance puérile qu'elles ont presque toutes, qu'avait du moins cette génération-là, car la contemporaine est plus pratique. Du coup, s'aggrava une infirmité cardiaque, jamais soignée, traitée par la fête jusqu'à 40 ans. Mathilde tomba malade. Suzanne, déjà lancée, jeta un peu d'argent dans la maison. Mais la sagesse d'Étiennette évita la débâcle. Étiennette était sortie de Picpus à la mort d'Asquin. Elle avait 17 ans. Le jour de sa naissance, son père, ordonné, charitable dans ses incartades, avait versé à son bénéfice, à une compagnie d'assurance sur la vie, une somme d'environ 7 000 francs, qui, 20 ans plus tard, constituait une dot de 20 000 francs. L'avenir immédiat était donc assuré, aux conditions d'une vie modeste. Tout en accomplissant ses 2 années de conservatoire, Étiennette liquida la situation de sa mère, qui, décidément, ne guérissait pas, installa le petit appartement de la rue de Berne avec le produit de la vente de quelques bijoux de valeur, aussi en empruntant sur son contrat, qui fut ainsi escompté tout entier 3 ans à l'avance. Élevée à l'écart par la volonté de son père, sortant seulement lorsqu'il était à Paris, la jeune fille n'avait souffert que de loin de la situation de sa mère et de sa sœur. La maladie de Mathilde, la fuite de Suzon, suivirent d'assez près sa sortie du couvent. Pourtant, en ces quelques mois, elle ne vit que trop les dessous de ses deux vies. Son cœur vieillit aussitôt, et de là vint sans doute la résolution d'honnêteté qui la sauvegarda au conservatoire, où tant d'autres prennent leur premier grade de filles galantes. Les amis de cette bonne Mathilde la visitèrent assidûment pendant les premiers temps de maladie. Mais une femme de plaisir, malade, n'a plus de raison d'exister. Bien peu montèrent encore l'escalier de la rue de Berne. Les 7 derniers mois, quand Mathilde hydropique cessa de se lever, elle ne vit plus guère que les deux Letessier. Puis Hector lui-même se fit rare. Paul resta l'hôte assidu quotidien. Il trouvait auprès d'Étiennette la délicieuse distraction qu'est pour l'homme affairé une amie jeune fille, jolie et point surveillée. Tel est l'égoïsme de Paris devant la maladie de ceux qui, comme les courtisanes et les artistes malades, ne servent plus son plaisir. Paul, cependant, Étiennette l'avait dit à Maud, n'était égoïste qu'à la surface, ou plutôt, son égoïsme avait une fissure, la souffrance d'un être qu'il aimait l'eût ravagé. Il offrit 20 fois à la jeune fille, la voyant si courageuse dans sa lutte contre la pauvreté, de la tirer d'embarras, protestant qu'il ne demanderait rien en échange, et il était sincère. Son cœur contenait cette lie d'attendrissement que la quarantaine fait remonter à la surface des âmes de viveurs. Étiennette refusa. Elle ne voulait rien recevoir de lui, justement parce qu'elle l'aimait un peu. Certes, ses sens tranquilles n'appelaient point d'amour. Paul l'avait conquise par la continuité de sa présence, trouvant chaque jour quelques heures pour elle dans une des villes les plus disputées de Paris. Elle lui gardait la tendresse spéciale des femmes chastes qui veulent donner leur corps en preuve de suprême abandon, mais pour cela même, sachant combien il souille l'amour, elle repoussait l'argent de l'homme qu'elle aimait. Paul céda au charme de cette tendresse désintéressée. Il s'y enlisa peu à peu. On n'échappe guère, surtout à pareil âge. Peu à peu, il n'imagina plus Étiennette hors de sa vie. Mais comment y demeurerait-elle s'il ne l'épousait? À la vérité, il s'exagérait encore l'opiniâtreté de sa résistance. Il ne soupçonnait pas que la jeune fille, instruite par toutes les compromissions qu'elle avait connues, souhaitait d'être honnête femme sans trop de foi. Si elle lui eût avoué son vœu secret, réussir comme artiste, gagner sa vie et, dès lors, se donner sans condition, l'égoïsme de Paul Letessier eût sans doute accepté. Elle ne dit rien, point par habileté, par vraie pudeur. Et Paul s'habitua à l'idée qu'il l'épouserait un jour, plus tard, à une sorte de retraite de la vie officielle et mondaine. Insensiblement, il rapprocha cette échéance. Pourquoi pas bientôt? La mère n'en a pas pour un an. La sœur a disparu. Voilà à quel raisonnement tient l'héroïsme bourgeois des meilleurs d'entre nous. Quand Étiennette rentra chez elle, accompagnée par sa voisine, une certaine Madame Gravier, il était 5 heures du matin environ, la nuit était noire. « Madame va un peu mieux, » dit la petite bonne en ouvrant la porte. « Elle a l'air de dormir. »« Est-ce que le docteur est là ?» demanda Madame Gravier. « Oui. » Étiennette, son manteau de bal jeté au hasard sur un meuble, courut à la chambre. Elle se heurta au médecin qui en sortait, accompagné de la garde. C'était un homme encore jeune, robuste et sanguin, à cheveux noirs pommadés, à barbe noire. Il caressa du regard, en amateur, cette jolie fille décolletée, blonde et blanche. « Madame est la fille de... » demanda-t-il à la garde, qui fit oui de la tête. « Mon Dieu, madame, mademoiselle, du moins, reprit-il avec un sourire d'amabilité, j'ai vu la malade, elle est assoupie en ce moment. Vous savez, n'est-ce pas, que le cas est sérieux. Le cœur est bien pris. Enfin, je ne puis pas vous dire exactement... » « Enfin, docteur !» interrompit la jeune fille avec un peu d'impatience. « Tout est-il désespéré? Dites-le-moi clairement, je veux savoir !» Il hésita encore, puis prenant son parti. « Eh bien, mademoiselle, puisque vous êtes courageuse, oui, c'est la fin. Je suis tout à fait inutile ici. Il n'y a plus qu'à s'asseoir à côté du lit et à attendre. Votre mère, heureusement, ne souffrira pas trop, tout se passera sans secousse. Voilà, mademoiselle !» Étiennette, debout, ne répondit rien. Une grosse émotion indécise lui gonflait le cœur, sans faire monter encore les larmes à ses yeux. « Dois-je aller pour les sacrements ?» demanda Madame Gravier. « Oui, je vous en prie. Mademoiselle, fit le docteur. Il la salua, se frottant de nouveau le regard au frais éclat de la gorge nue. Étiennette rentra dans la chambre. Comme l'avait dit le médecin, Mathilde Duroy était assoupie. Étiennette s'approcha du lit qu'une lampe sur la table de nuit éclairait vivement. Mathilde reposait sur le dos, la tête et le bras droit découverts. Son corps, d'une ampleur normale jusqu'aux environs de la ceinture, bombait démesurément les couvertures à la façon d'un difforme édredon qu'on eût installé sur les jambes. La face encadrée par un joli bonnet de nuit très blanc, d'où sortaient quelques mèches bizarrement nuancées, grises sous le blond artificiel des teintures, semblait au contraire presque maigre, d'une pâleur de vieille cire décolorée. Un tremblement intermittent agitait les traits, surtout les paupières et la bouche, et toute cette face revêtait une expression lasse et hostile, si navrante. Un vagissement inarticulé, qui semblait pourtant voiler des paroles, sortait des lèvres entrouvertes. La jeune fille prit dans ses mains la main courte et grasse de sa mère et, dessus, appuya son front. Les bagues, enchâssées dans la graisse des doigts, lui meurtrissaient le front. « Maman va mourir !» Assurément, cette pensée n'avait pas encore atteint la frontière mystérieuse où l'idée confine à la sensibilité. Étiennette était horriblement triste, mais les larmes ne venaient toujours pas. Un doigt, posé sur son épaule nue, la fit retourner. La garde et Madame Gravier étaient derrière elle. Elle se retourna. « Je m'en vais, dit Madame Gravier, à la chapelle de la rue de Turin. Voilà bientôt 6 heures. Il doit y avoir déjà du monde debout. À tout à l'heure. » Elle embrassa Étiennette, qui se laissa faire, et quitta la chambre. La garde, une femme mûre, sèche et brune, avec de gros membres, dit « Je vais vous aider à vous déshabiller, mademoiselle, bien vite, si le curé vous voyait comme cela. » Alors seulement, Étiennette se rappela qu'elle était en toilette de bal. Elle défit vivement son corsage et sa robe et, restant en jupon, passa une matinée. Elle vint s'asseoir au pied du lit, elle attacha ses yeux aux paupières fermées et attendit. La garde s'était réinstallée sur la chaise longue. Elle avait mâchonné quelque temps une tablette de chocolat, puis s'était endormie. Étiennette fut bien aise d'être seule à penser dans cette chambre d'agonie. Car l'agonie commençait à travers le sommeil, le souffle s'accrochait péniblement aux bronches et à la gorge. Crispée sur le drap, la main droite tentait de la ramener avec une débilité, une maladresse enfantine. Et les lèvres s'agitaient de plus en plus, s'essayait à un discours indistinct et volubile. Que disait-elle ? Des articulations de voix perçaient maintenant. Étiennette se prit à écouter. Peu à peu, il lui sembla qu'elle comprenait. Oui, bien sûr, elle distinguait des mots. Argent, mort. Ses lèvres tremblantes les répétaient parmi un bafouillage confus. Puis ce furent des moitiés de noms. Étienne, Suze. Les noms de ses filles mêlés à des noms d'amants de jadis. Maurice, As, Berli. Puis une phrase vide de sens. Elle n'a pas voulu dire pourquoi elle était partie. De nouveau, la voix charria des résidus de mots méconnaissables, longtemps, longtemps, combien de temps ? Étiennette souffrait de se sentir plutôt nerveuse qu'attendrie. Je ne pleure pas, pourquoi ? Cependant, j'ai du chagrin. Pour se forcer à pleurer, elle se replia sur soi-même. Je vais être toute seule. Certes, la pauvre Mathilde, depuis des mois, n'égayait point la maison. C'était pourtant la famille, la chair commune, la pensée qui vous a connue toute petite. Seule, je n'ai personne au monde. Les larmes vinrent aussitôt à cet appel de l'égoïsme humain. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai personne au monde. La figure, la voix de Paul Le Tessier traversèrent sa pensée. Je voudrais qu'il fût là. Il allait venir. Pourquoi ai-je refusé? Elle sentit bien que, sa mère une fois morte, elle se réfugierait dans les bras de cet ami, qu'il ferait d'elle ce qui lui plairait, pourvu qu'il la gardât, pourvu qu'il ne la laissât pas toute seule. « Oh, les hommes, j'en ai assez !» Cette phrase jaillit toute claire des lèvres de la mourante parmi son balbutiement aussitôt recommencé, épouvanta Étiennette comme si un mort ou un fantôme avait parlé auprès d'elle. Elle la connaissait bien pourtant, l'exclamation familière de la pauvre Mathilde devant les déboires de sa vie d'entretenue. C'était le dégoût du métier, l'horreur de la domestication du sexe, l'appel au chômage, à la grève. « Oh, les hommes, j'en ai assez !» À travers le vagissement indistinct de l'agonie, la phrase revenait maintenant abîmée, boiteuse, informe, mais reconnaissable pour Étiennette qui la guettait, et chaque fois, à la reconnaître, sentait une brûlure à son cœur. « Pourvu que la garde n'entende pas !» Étiennette écouta. La garde ronflait doucement. Alors la jeune fille se leva, elle murmura « Maman !» en essayant de prendre cette main crispée qui s'agitait et qu'elle lâcha aussitôt en étouffant un cri, car la main lui avait serré les doigts, entrant les ongles dans la peau. Et l'horrible phrase revenait toujours dans l'éboulis des syllabes « Oh, les hommes, j'en ai assez !» À genoux près du lit, bouchant ses oreilles pour ne plus entendre, Étiennette se mit à prier. Prier ? Elle avait eu la piété de toutes, la piété facile et coquette des couvents, si vaine, si affleurante, que l'homme le plus vaguement déiste est souvent plus près de la foi qu'une congréganise à médaille. En 2 ans, le souffle cruel de la réalité avait tout emporté, même les prières du matin et du soir, même les pratiques les moins gênantes. Le chagrin présent, l'effroi de l'isolement, ressuscitèrent les pieuses paroles sur les lèvres de la jeune fille. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie !» Et les gestes de piété se rapprirent d'eux-mêmes aux mains infidèles, le frappement de la poitrine, le baiser sur la croix du pouce et de l'index. Sainte piété, si précieuse que son plus faible écho console encore un misérable qui l'invoque. Du bruit dans la chambre, Étiennette se redressa. Un prêtre venait d'entrer, accompagné de Madame Gravier, et tandis que celle-ci, aidée de la garde, préparait les huiles pour les sacrements, ce prêtre s'approchait du lit, prenait la main, disait « Ma chère fille, m'entendez-vous » Étiennette écouta avec le prêtre. Elle perçut l'écho de l'horrible phrase, reconnaissable pour elle seule. « Oh, les hommes, j'en ai assez !»« On m'appelle bien tard, » dit sévèrement le prêtre à la jeune fille. Il était maigre et petit, avec des cheveux gris tout frisés, une soutane de fantaisie en cachemire fin. « Écartez-vous, » dit-il encore à l'enfant tout en larmes. Étiennette alla rejoindre au bout de la chambre la garde et Madame Gravier qui s'étaient agenouillées. Elle-même s'agenouilla et essaya de prier. Le prêtre murmurait les paroles de l'onction. Misereatur tui omnipotens Deus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum. Son oraison latine, sifflante et chantante, s'unissait maintenant au vagissement de l'agonisante, de plus en plus rauque et indistinct, et pourtant, Étiennette y distinguait toujours la même exclamation désespérée, que sa mère éructait maintenant coup sur coup, sans intervalle. « Oh, les hommes, j'en ai assez !» L'horrible mot, dont nul autre qu'Étiennette ne connaîtrait le secret, comme cela cautérisait le cœur, et pour toujours. Ah, de cette vie-là, de l'esclavage abominable aboutissant à cette agonie, jamais, jamais pour elle-même. L'alanguissement qui, tout à l'heure, s'était emparé de son cœur, a songé combien elle serait seule désormais, se dissipa. « Jamais je ne dépendrai d'un homme, dussé-je être ouvrière, femme de chambre ou morte !» Ayant fini les onctions, le prêtre dit une courte prière au chevet de la mourante, puis il appela Étiennette et l'emmena dans le salon. Il lui parlait d'un ton sévère, comme irrité de la trouver si jolie dans ses larmes. « Votre mère avait-elle des habitudes religieuses, mon enfant ?»« Mais, monsieur l'abbé, oui, je crois. » Elle faisait ses prières matin et soir. Elle ne fréquentait pas les sacrements. Étiennette hésita. « Je ne crois pas, » dit-elle. « Il faut prier pour elle, mon enfant. Dieu est très miséricordieux, mais il n'accorde rien à qui ne demande rien. » Après un silence, il ajouta. « Avez-vous d'autres familles ?» Étiennette rougit si vivement que le père comprit et pardonna le mensonge de sa réponse. « Non, monsieur. » Et il sembla même s'adoucir un peu. Ma pauvre enfant, murmura-t-il, que le bon Dieu vous ait en sa garde. Vous voilà toute seule dans la vie. Si vous vous sentez le cœur trop gros ces jours-ci, venez rue de Turin. Vous demanderez le père d'Erigny. » En balbutiant des remerciements, la jeune fille reconduisit le prêtre jusqu'à l'antichambre. Elle traversait de nouveau le salon quand elle entendit un grand cri. Elle se précipita dans la chambre. Madame Gravier-Lagarde était déjà agenouillée et récitait le De Profundis. Étiennette s'affaissa près d'elle et pleura cette fois du fond du cœur. Elle resta ainsi jusqu'à ce que la voix de Madame Gravier lui dit à l'oreille « Il faut vous étendre un peu, ma petite, ou vous prendriez mal vous aussi. » Elle obéit machinalement. Quand elle fut debout, elle vit avec surprise qu'on avait tiré les rideaux des fenêtres. Il faisait dans la chambre un petit jour rosé gai de printemps. Mathilde, les yeux clos, avait repris dans la mort sa figure amicale des jours de santé. Vers 8 heures du matin, Étiennette, cédant aux instances de son obligeante voisine, buvait distraitement un peu de café sur un coin de table, dans la salle à manger, quand la petite bonne, Ursule, entra en annonçant confidentiellement « C'est la demoiselle, elle est avec Monsieur Paul !» La demoiselle était le nom dont Ursule désignait cette élégante et mystérieuse visiteuse qui, depuis 2 mois, avait des rendez-vous assez fréquents dans l'ancienne chambre de Suzanne avec un élégant et mystérieux visiteur qu'Ursule nommait aussi vaguement « le monsieur ». Étiennette rougit au rappel de cette complaisance. Elle était gênée de revoir Maud à présent. Non, elle n'aurait plus permis cela. De l'événement, pourtant si prévu, de la mort de la mère, il lui demeurait, en même temps qu'une résolution plus robuste de vivre honnête et indépendante, un renouveau de pudeur juvénile vis-à-vis des choses qu'elle avait jusqu'ici considérées comme inévitables, avec quoi son deuil la faisait rompre. « Qu'est-ce qu'il faut dire, mademoiselle ?» demanda la petite bonne. « Dites-lui que j'y vais. » Elle rejoignit Maud et le tessier. Tous deux l'embrassèrent tendrement sur ses larmes qui jaillissaient de nouveau. « Ma chérie, ma pauvre enfant !» Ils s'assirent, la tenant contre eux. Étiennette, par brève réponse, racontait la nuit. « Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Maud. Elle eut un geste d'incertitude et de découragement. « Écoutez, ma chère enfant, dit Paul le tessier, Maud et moi, nous sommes d'avis que vous ne pouvez pas demeurer ici, dans cette maison vide, tout de suite après la mort de votre mère. Voici donc ce que je vous propose, d'accord avec elle et avec Madame de Rouvre. « Oh, soyez tranquille, reprit-il, répondant à un geste de refus qu'il devinait. Je ne vous offre aucune espèce de secours, bien que, vous le savez, je sois à votre disposition, comme pourrait l'être un frère aîné. » Madame de Rouvre va venir pendant 1 mois s'installer à Chamblay avec Maud et Jacqueline. « Oui, interrompit Maud, tu devines pourquoi, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen, je crois, de calmer la jalousie de... qui tu sais? Et puis, du reste, j'ai horreur de Paris. Veux-tu venir avec nous? C'est maman et moi qui t'invitons. Aucune raison de refuser. » Étiennette ne répondit pas tout de suite. Sa logique de fille raisonnable et expérimentée lui disait « Décidément, Paul songe à m'épouser, et Maud a peur de subversauts si elle reste à Paris. Cette combinaison arrange tout le monde. N'importe, c'est bien de m'avoir fait une part dans leur projet. » Elle embrassa Maud. « J'accepte, ma chérie, et je te remercie. » Et comme Paul à son tour l'embrassait, elle se sentit soudainement si réconfortée par cette étreinte qu'elle pensa plus tendrement que jamais « Il m'aime bien, c'est bon d'être aimé, cher ami !»